Ayant changé, vous l'avez sans doute noté, on n'est plus obligé de passer la journée là-bas parce qu'il n'y a plus de deuxième tour. Et donc, il s'agit simplement pour les grands électeurs de se rendre entre 9h et 15h pour voter. Je voulais juste simplement vous signaler qu'il y a un minibus qui part de Carnac, le minibus de la commune, je crois, à 9h30, pour ceux qui éventuellement voudraient bénéficier de ce transport pour aller voter. Et donc j'imagine qu'une fois les formalités remplies, le minibus reviendra à Carnac. Donc retour espéré avant 11h pour ceux qui veulent se voter tôt. Voilà, donc c'était juste une petite information pour ceux que ça intéresse. On va donc maintenant procéder à l'appel. Alors, monsieur Olivier Bonduel, pouvoir à monsieur Marc Lerouzic. Madame Marie-France Martin-Bagard. Monsieur Marc Lerouzic. Madame Christine Lamandé, Monsieur Jean-Yves de Ripper, Madame Janine Le Golvan, Madame Françoise Le Pénec, Monsieur Charles Bétry, pouvoir à Madame Armelle Moreau, Marie-Yvonne Belleuil, Monsieur Philippe Audot, pouvoir à Olivier Lepic, Madame Catherine Isoard, Monsieur Patrick Lotaudet, pouvoir à Monsieur Pascal Lejean, Madame Christine Desjardins, Monsieur Michel Durand, Madame Morgane Petit, Monsieur Gérard Marc-Albert, Madame Karine Le Déveat, Monsieur Hervé Le Donnant, qui n'est plus dans les bouchons, présent. Monsieur Chapelle a été moins habile, apparemment. Madame Monique Thomas nous a appelé cet après-midi. Elle a un petit souci personnel, elle est donc absente. Monsieur Jean-Luc Servet, présent. Madame Nadine Rouet-Pouvoir, à Monsieur Gérard Marc-Albert, Monsieur Pascal Lejean, Madame Armelle Moreau, présent. Monsieur Loïc Oudois, présent. Madame Sylvie Robineau est en vacances, elle a bien de la chance, elle a donné un pouvoir à Madame Christine Desjardins. Monsieur Paul Chapelle sera en retard. Monsieur Lepic, Olivier, présent. Nous avons donc le quorum pour pouvoir délibérer ce conseil municipal. Un ordre du jour pas léger, mais disons pas énorme. Et donc je vous propose tout de suite de commencer par la désignation d'un secrétaire de séance. Morgane, tu étais toujours la cadette, donc cette charge, tes choix. Et ensuite, donc, nous allons procéder à l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 23 juin et du 30 juin. Alors, on commence par le 23 juin. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces procès-verbaux ? Pas de remarques ? Je vous remercie. Celui du 30 juin, pas de remarques non plus ? Je vous remercie. On passe donc au point 4, le compte rendu des décisions du maire, que vous trouvez donc dans votre dossier sous les numéros allant de 89 à 136. Et là, j'imagine qu'il y a de nombreuses questions. Monsieur de Ripper.
La décision numéro 91 concernant le marché de restauration municipale. Je constate qu'il y a une différence de 100 000 euros entre le compte-rendu de la commission Enfance-Jeunesse, qui donne un montant de 283 240 sur deux ans pour le marché, et sur le montant de la décision, qui est à 383 239. Alors, quel est le bon montant ? 283 000 ou 383 000 ?
Monsieur Oudois.
Le vrai montant est 383 239 euros et 30 centimes.
D'accord. Donc le montant qui était indiqué dans le compte-rendu était...
Alors je vous remercie de...
Sans doute une erreur
de m'l'indiquer, parce qu'effectivement, je ne l'avais pas noté.
D'accord, merci. Deuxième question, toujours concernant le marché de restauration municipale. Le prix du nouveau prestataire Convivio est fixé à 3,53 €. Par rapport à l'ancien prix Sodexo, il se situe comment ?
Alors, il est à 3,35 €. En fait, il faut savoir...
Enfin, en hors-taxe ou en toute taxe ? On parle en hors-taxe ou en toute taxe ?
Alors, moi, je parle en hors-taxe.
Alors, hors-taxe, d'accord.
3,35 € en hors-taxe. Vous parlez de la Sodexo actuellement ou de la proposition
de la Sodexo, le prix payé actuellement. C'est-à-dire, on a un prix qui est en hausse ou on a un prix qui est en baisse par rapport à Sodexo ?
Sur l'année 2017-2018, on a un prix qui est en baisse.
On a un prix qui est en baisse.
Par contre, sur l'année 2018-2019, on a un tarif qui est en hausse, mais c'est lié au passage de 500 rationnaires à 120 en cours d'année. D'accord. Donc nécessairement, on a des tarifs qui augmentent.
Donc, alors justement, venons-en à cette augmentation de prix qui est liée à la baisse du nombre de repas servis, puisqu'on va passer à une centaine de repas servis, et ce qui correspond à la séparation entre le public et le privé. J'ai remarqué que le privé avait choisi exactement le même prestataire de services, Convivio. Donc, est-ce que vous pensez mener une négociation globale avec le privé de façon à obtenir une baisse du coût? Je veux dire par là que là, on a une augmentation quand même de 33%. Et donc, cette augmentation de 33%, qui est-ce qui va la supporter? Ce sont les familles ou c'est la collectivité?
Alors, sur la durée du contrat, on n'a pas une augmentation de 33%, parce qu'aujourd'hui, on part sur un contrat de 3 exercices. Et effectivement, on va, une fois que ce contrat va arriver à échéance et qu'on va rentrer dans la nouvelle cantine, on va mettre l'ensemble des solutions sur la table. Et parmi ces solutions, il y a des mutualisations effectuées peut-être avec l'école Saint-Michel. C'est une des pistes à explorer, effectivement.
D'accord.
Et on le fera.
Et éventuellement, si cette piste n'aboutit pas, donc je reviens à ma question... Est-ce que la hausse sera supportée par la collectivité?
C'est un peu trop tôt pour vous répondre, parce qu'on parle de choses un petit peu virtuelles, donc je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Une fois qu'on aura choisi le prestataire, qu'on connaîtra le prix exact, on verra quelle sera la répartition des coûts sur une éventuelle augmentation. Mais à ce stade, c'est très difficile.
Pour l'instant, pour l'année 2018-2019, le prix, il est connu. On sait que ce prix, il est en augmentation de 33%. Mmh.
Il n'y aura pas d'incidence pour les familles sur cet exercice-là, c'est-à-dire sur le montant de ce marché, puisqu'on a un marché qui est équivalent au marché précédent. Donc on n'a pas l'intention de modifier les tarifs pour les familles, sauf à l'augmenter très légèrement, mais ce qu'on fait chaque année, en fait, pour tenir compte de la hausse du coût de la vie. Donc sur ce marché-là, ça ne se pose pas.
On renouvellera le marché dans la nouvelle cantine. Et là, effectivement, la question que vous posez se posera éventuellement. Monsieur Le Rosic.
Le constat que je fais, c'est que, étant donné que les deux écoles ont le même prestataire, Convivio, je pense qu'il aurait été judicieux et plus intelligent de réunir les deux écoles en un seul restaurant scolaire. Et je pense qu'on aurait fait une économie d'échelle. Et ça aurait été beaucoup plus facile pour gérer le dossier des repas. Surtout que ce sont les enfants de la commune de Carnac, sauf pour le collège. Mais on peut faire une incidence prix spéciale pour les collèges.
Monsieur Le Rosic, ce débat, il est derrière nous et on ne va pas le mener à
non,
chaque
Non, mais
conseil.
C'est le constat que je fais. Il est derrière, d'accord, mais c'est le constat.
Je ne vous empêche pas de faire le constat, Monsieur Le Rosic, je vous réponds. Vous avez fait le constat, donc ma réponse est la suivante. C'est une décision, encore une fois, qui a été prise par l'école, après de longues réunions, une longue concertation. Je m'inscris et je respecte la décision de l'école.
De l'école, donc, attendez.
Monsieur Le Rosic,
de quelle école vous parlez?
Monsieur Le Rosic,
de quelle école vous parlez?
Monsieur Le Rosic, je termine. La règle dans le conseil municipal, c'est d'attendre que quelqu'un
d'accord.
se soit exprimé pour répondre.
Précisez l'école.
Je termine. Je respecte la décision de l'école Saint-Michel. C'est elle qui a pris cette décision et je ne vois pas pourquoi moi, maire de Carnac, j'aurais outrepassé une décision qui a été prise par les organismes représentatifs de ces deux écoles. Donc, encore une fois, le débat, il est clos. Vous avez parfaitement le droit de faire ce constat, mais c'est un choix qui a été celui des écoles.
Oui, alors je vais quand même compléter vos dires. Ils étaient d'accord au départ, mais vu la distance que la municipalité imposait aux élèves de l'école privée, ils sont revenus sur leur décision primaire.
Monsieur Le Rosic, d'abord, vous n'êtes pas mandaté pour vous exprimer au nom des représentants de l'école. Ils sont assez grands pour le faire. Et je crois même que dans un article de Ouest-France, ils vous avaient reproché de vous exprimer en leur nom. Et ils vous l'ont même reproché vertement. Donc laissez les représentants des écoles s'exprimer. Ils ont eu l'occasion de s'exprimer à de nombreuses reprises, que ce soit en réunion ou dans la presse. Donc que chacun reste à sa place. Je comprends et je respecte parfaitement votre constat et votre opinion du fait que ce n'a pas été une bonne décision. Mais respectez les gens qui sont investis pour pouvoir prendre cette décision. Ça n'est pas votre cas. Les écoles ont fait un choix. Je le respecte.
Le commentaire que j'ai fait dans la presse, c'était un compte rendu de la commission scolaire.
Mais moi, je ne me mêle pas de...
C'était mon rôle de conseiller municipal.
J'ai juste lu l'article qui a suivi le lendemain et qui a été une réaction des écoles. Donc, encore une fois, Monsieur Rosic, je respecte parfaitement votre point de vue et il est parfaitement honorable. On a fait un choix différent. On s'est appuyé, encore une fois, sur une longue concertation. Le choix, il est fait.
Dommage.
Parfait. Question sur...
Oui, puisqu'on parle de coûts, je voulais savoir, dans le budget de du restaurant scolaire qui est prévu donc pour le public, est-ce que dans ces 1,3 million sont prévus la cuisine et le mobilier?
Il me semble. Monsieur Servet?
La cuisine, oui. Le mobilier, non. C'est un équipement à part. La cuisine fait partie de l'opération de construction.
tout l'aménagement de la cuisine fait partie de l'opération de construction.
Oui.
D'accord. Fait. L'équipement, quoi.
Oui. Pas les couverts et les.
Non.
On est d'accord. Les, on va dire les meubles et les équipements de cuisine, frigo, mobilier, plonge, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions du maire, Monsieur de Ripin?
Oui, la décision numéro 107 concernant le marché de la vape. Le montant de l'avenant représente plus de la moitié du marché d'origine. Il correspond à quoi, l'avenant?
Monsieur Servet.
Dans le cadre du marché d'origine, on savait qu'il y avait nécessairement un travail à réaliser dans les périmètres des monuments historiques. Par contre, ce qui était impossible à définir au stade de la passation d'un marché, c'était quelle était l'ampleur de ces travaux. Pour faire bref, dans le cadre des monuments historiques, on a le périmètre des 500 mètres. J'allais rajouter bête et méchant. Alors que dans le cadre de la vape, on va travailler sur un périmètre délimité des abords, c'est-à-dire qu'il va y avoir nécessairement une étude fine qui va préciser l'éco-visibilité, les distances, etc. Et qui va donc affiner ce cercle de 500 mètres. À un certain stade d'avancement de la vape, il a pu être défini un certain nombre de monuments sur lesquels il n'y avait pas nécessairement besoin de travailler sur l'emprise des 500 mètres parce que ça n'avait pas d'incidence ou d'intérêt particulier, et un certain nombre d'autres monuments sur lesquels il était par contre très important de travailler sur ces périmètres délimités des abords. Donc à partir de là, une fois que la vape était avancée suffisamment à ce stade, le bureau d'études GECO a proposé effectivement une prestation complémentaire et qui correspond à cet avenant. À titre d'information, dans le cadre du marché initial, cette étude de périmètre a été valorisée pour une unité à titre de prix unitaire à hauteur de 1518 euros TTC, si ma mémoire est bonne. On a défini 43 zones qui pourront encore faire l'objet éventuellement d'un calage fin final, ce qui nous aurait amené à 43 x 1518 à un montant de 65 000 euros TTC. Et l'étude affinée pour globaliser le tout a amené à un devis et donnant l'avenant à hauteur de 39 000. Donc on a fait ce travail d'optimisation, si je puis dire, à la fois du nombre de monuments, de périmètres à étudier, et à la fois dans l'optimisation financière de la plus-value proposée par le cabinet GECO.
La commission, la mise en place de la commission AVAP a eu lieu au mois de janvier, si mes souvenirs sont exacts. Depuis, il y a eu un groupe de travail de créer. Ce groupe de travail, ça fait donc maintenant plus de 6 mois. Est-ce qu'on peut avoir les résultats, est-ce qu'on peut avoir un état d'avancement des travaux de ce groupe, et quand est-ce que la commission AVAP va se réunir à nouveau?
Alors la commission va se réunir vraisemblablement au courant de l'automne. Aujourd'hui, l'avancement, le bureau d'études a fini la phase de diagnostic à quelques éventuels calages ou relectures communes près. Ils sont en train de travailler, ils ont démarré les travaux sur les périmètres délimités des abords, qui a une incidence, on va dire, par itération entre le travail sur un pré-périmètre général d'AVAP et les périmètres délimités des abords. Les lignes se superposant ou se décalant légèrement parfois, il y a ce travail nécessaire d'étude des PDA pour finaliser et avoir un document suffisamment, je dirais, étudié par le bureau d'études pour être proposé en commission.
Donc, automne, ça veut dire octobre?
Non, je pense pas.
Novembre?
Ouais, ce sera plutôt novembre-décembre.
Numéro 104. C'est quoi l'aménagement de voirie du secteur sud de l'église Saint-Cornélie?
C'est l'avenant de régularisation en fin de travaux. L'ensemble des choses prévues non réalisées et des choses réalisées qui n'étaient pas forcément prévues. Donc c'est la régularisation de l'ensemble du marché Bourg-Sud sur la...
Ça concerne quoi ?
De multiples choses, un regard non prévu, un caniveau ajouté, une marche en plus ou en moins.
Et tout ça, ça fera 42 000 euros ?
Oui, y compris la... Voilà. Je vois Pascal lever le doigt, je crois qu'on pense la même chose. Y compris la venelle de la forge.
Ah. Oui, c'est
qui a été, dont la réfection a été décidée, je dirais, pour profiter, on va dire, de la présence des entreprises et terminer ce secteur-là.
Ok, d'accord.
Oui, la 93 et la 118, donc il y a des jeux prévus au Jardin de Césarine, c'est quel type de jeu ?
Alors, le premier jeu, celui dont il est fait mention dans le bordereau 93, c'est en fait un jeu qui va venir en remplacement de l'aire de jeu rouge, je ne sais pas si vous visualisez, qui va être déposé là prochainement et qui sera remplacé par une aire de jeu qui s'adressera aux 3-10 ans avec trois entrées distinctes. C'est-à-dire qu'il y aura une multitude de jeux sur la même structure. Et pour éviter que ne cohabitent des enfants de tranches d'âge trop disséminées, il y a trois entrées spécifiques qui sont prévues. Donc ça, c'est pour le 93. Et l'autre, le 118, c'est un jeu type téléphérique. Donc c'est pas une tyrolienne. En fait, la tyrolienne, on est suspendu, on se tient par les bras. Le téléphérique, on est assis. C'est un espèce de tire-fesse. Vous voyez le principe ? On est assis, en fait, sur un... Vous voyez le principe ? Ça parle à tout le monde. Donc, c'est plus bas qu'une tyrolienne. Il y a moins de risques. Et ça ne nécessite pas d'avoir un sol amortissant. Il y a juste besoin au départ et à l'arrivée, mais pas tout le long de la structure. Il sera entre la structure pyramidale de cordes et le terrain de foot, dans cette zone-là. Là, c'est à partir de 4 ans, et ça s'adresse aussi aux adolescents, par contre, pour le coup.
D'autres points, monsieur Grippin ?
La décision 125 concernant les honoraires d'avocats contre la SAS du marché des druides. Les 9 000 euros qui sont déboursés en honoraires d'avocats, ça représente la totalité des honoraires ou est-ce qu'il y avait déjà eu une provision de versée ?
Donc ce n'est qu'une partie, effectivement.
Et deuxième question, où est-ce qu'en sont les procédures ?
Alors, elles sont toutes en instance de jugement. Normalement, le jugement du tribunal administratif sur le premier jugement qui devrait sortir, c'est sur celui sur le sursis à statuer. De mémoire, ça devrait être dans la première quinzaine d'octobre ou quelque chose comme ça. Pour les autres, je ne maîtrise pas le calendrier. Tribunal administratif, c'est... Il y a tellement de part et d'autre. Hein, les deux avocats ont possibilité de repousser les jugements en demandant des compléments d'instruction. Mais je crois que la première chose qui arrive, là, c'est au mois d'octobre, le jugement, enfin, en tout cas, l'audience. Le jugement, après, je ne sais pas combien de temps ça intervient, mais l'audience a lieu, je crois, de mémoire, le 13 octobre. Mais je me trompe peut-être. Pas d'autres questions sur Madame Levent.
Alors, ça me permet de voir où on en est. La 94, donc, les travaux commenceront quand réellement à l'office de tourisme de la plage ?
Alors, Madame Moreau ?
Au mois d'octobre.
D'autres questions ?
Oui. J'avais posé la même question au codir de l'office de tourisme. On achète deux véhicules, donc... un véhicule chez Citroën Crac et l'autre véhicule, je crois, c'est Citroën Auray ou Renault Auray. On ne pouvait pas acheter chez les garagistes à Carnac.
C'est à Carnac. C'est à Carnac.
Par les garagistes de Carnac, on n'a pas acheté deux véhicules, on en a acheté trois qui passeront sur l'année.
Un chez Citroën à Montauban, l'autre chez Renault à Dunedruide et le troisième chez Peugeot à Plornel, excusez-moi, même si c'est voilà, entre Plornel et Carnac. Donc on a acheté trois véhicules, on a réparti l'ensemble des véhicules, on a fait un travail avec le CTM, l'ensemble des véhicules ont été répartis, prévu en renouvellement, et on a réparti tous les véhicules sur les trois marques.
Et en fait, comme ce sont des agents, en fait,
d'accord. C'est pour ça qu'on... Qui
tout à fait.
Qui porte le nom, mais c'est acheté à Carnac.
D'accord.
Et tout est programmé pour un bout de temps.
Bien. La 110, donc simplement pour savoir, chaque année, on nous fait un bilan de la saison. Enfin, on a un rapport de Maury pour savoir, justement... ce sera fait.
Ça sera fait en commission
les
tourisme.
Les chiffres très récemment, mais, on
vient quand
on micro. Juste les chiffres, mais ce sera fait.
D'accord. Merci.
Ok, pas d'autres questions. Je vous remercie. On passe donc maintenant à l'ordre du jour et notamment donc au premier point de cet ordre du jour. Monsieur de Ripper nous avait fait remarquer parfaitement justement que nous n'avions pas délibéré. Au sujet de la désignation des nouveaux représentants de la commune à l'office du, enfin, au yacht club de Carnac, pardon, qui donc selon ses nouveaux statuts donc compte deux représentants de la commune. Donc il s'agit donc de régulariser officiellement cette nomination et nous vous proposons donc de régulariser les deux représentants de la commune au conseil d'administration du yacht club en la personne de Pascal Lejean et de Karine Le Déveat. J'en profite d'ailleurs pour remercier Morgane, qui a longtemps, jusqu'à présent, été administratrice, qui a fait un travail remarquable dans des conditions pas toujours faciles, et je ne m'étendrai pas sur le vocable, Morgane, mais voilà, je voulais juste te remercier, parce que je sais que ça a été sous la présidence de l'ancien président, les comités de direction duraient parfois très, 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 très longtemps, très, très tard le soir, et que quand on a une vie professionnelle, c'est jamais facile. Donc j'en profite voilà, pour te remercier publiquement pour ton action au sein du Yacht Club. Et je remercie évidemment Karine, mais Karine, elle est continue, donc j'aurai l'occasion de la remercier une autre fois.
Donc c'est une désignation, ça n'est pas une élection.
C'est une élection, nous allons voter oui, sur cette proposition.
Je voyais les deux termes.
Non, tout ça.
À la fois désignation.
On ne pouvait pas se présenter, nous.
Si, vous pouvez, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Vous pouvez présenter un candidat, il n'y a aucun souci. D'accord. Ou même deux.
Non, un seul. Je me présente.
D'accord, parfait. On va donc être obligé de voter. Je vous propose de voter à main levée. On n'a pas voté un bulletin secret, non hein. Bon, alors, donc, qui vote pour Monsieur de Ripper? Parfait. Qui vote pour Madame Karine Le Déveat? Parfait. Et qui vote pour Monsieur Pascal Lejean? Parfait. Merci à tous. Et félicitations, pas à Karine, puisque c'est déjà le cas, à Pascal, avec un gros chantier pour le Yacht Club, puisqu'on va lancer un groupe de travail avec la nouvelle présidente, et l'objectif, c'est de mettre sur place un projet majeur pour la rénovation du Yacht Club, qui en a bien besoin. On passe au point suivant, qui est la désaffection de la demande de désaffection au préfet de la chapelle de la Congrégation. Vous le savez... Je crois que c'était un projet qui a été poursuivi par plusieurs municipalités, puisqu'on en parlait déjà du temps de Michel, je crois, Marc. Cette chapelle est une chapelle très emblématique, puisqu'elle se situe dans le centre de Carnac. Elle était utilisée jusqu'à il y a quelques années pour le culte protestant, et aujourd'hui, elle n'est plus du tout utilisée. Et donc, après en avoir parlé avec le père Dominique, avec l'évêque également, eh bien, nous avons proposé, ce qui a été accepté à la fois par l'évêché et par la paroisse, eh bien, de désacraliser cette chapelle de manière à pouvoir, compte tenu de son lieu stratégique, eh bien, l'utiliser à d'autres usages que le culte, et notamment, et on l'a vu pendant le festival Terraqué, à des concerts, au marché de Noël ou à d'autres manifestations qui pourraient être organisées par des associations ou la commune à cet endroit qui est encore une fois très stratégique. Donc je vous propose de m'autoriser donc à demander au préfet eh bien, de nous donner l'accord définitif, hein, je crois sous la forme d'un arrêté préfectoral, pour que nous puissions et pour que cette chapelle puisse officiellement être désacralisée et être utilisée par la commune, évidemment en respectant la nature des lieux. Il ne s'agit pas d'en faire une boîte de nuit. Il s'agit simplement de la mettre en valeur et d'organiser des expositions, notamment artistiques ou des concerts, et si possible, évidemment, en mettant en valeur l'art religieux de la commune. On a beaucoup de chapelles, et donc c'est une façon aussi eh bien, de leur donner un nouvel usage, surtout quand elles ne sont pas utilisées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean va nous parler dans le prochain rapport de la délégation de services publics de la DSP du casino. J'avoue que j'ai mis quelques temps à comprendre la nature du problème, mais je suis sûr que monsieur Lejean va nous le réexpliquer.
Court ou long ?
Non, court.
Il y aura alors... des questions. Le 26 novembre 2016, nous avons fait un avenant pour négocier les taux du casino Circus, puisque je vous rappelle qu'il y a des nouveaux propriétaires, qui étaient le casino Barrière, qui est devenu le casino Circus. Et donc, nous avons fait des tranches par palier, et nous sommes partis sur le produit brut de jeu, ce qui s'appelle le PBJ. Et donc, nous avons fait l'avenant, nous l'avons envoyé, pas eu de remarque, aucune remarque. Et au mois de mai, si vous voulez, nous avons dépassé un palier, c'est-à-dire que nous avons dépassé les 3 millions de produits bruts de jeu. Et à partir de là, si vous voulez, le casino s'est trouvé devant un problème. Qu'est-ce que je fais ? 2 bords d'euros de paiement, un à 10% et un à 12%. Ou est-ce qu'on met tout dessus ? Sur le même, comment fait-on ? Ainsi de suite. Donc j'ai appelé la trésorerie. La trésorerie de Carnac s'est partie au département. Le département s'est parti à Bercy. Et là, à Bercy, on a dit, mais monsieur Lejean, ça ne va pas du tout. Nous, les PBJ, on ne connaît pas. On ne connaît que les PNJ. PNJ, produit net de jeu. Ah, je dis oui, d'accord. Mais je lui dis, moi, comment je fais pour calculer un produit net de jeu, sachant qu'entre des machines à sous électroniques, il y a un abattement de 25%. Sur des jeux de table, c'est un abattement de 15%. Sur d'autres jeux, il y a d'autres abattements ou le cumul. Donc, à partir de là, ils m'ont dit, oui, mais monsieur Lejean, nous, on a un problème. C'est que l'ordinateur, au niveau de l'État, il ne sait que calculer sur un produit net de jeu. Donc, aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit vous restez comme vous êtes, et nous, on prendra en compte les chiffres que vous avez mis en PBJ, on les prendra en PNJ. Ou alors, il faut repasser derrière. Ben, j'ai dit, si vous me prenez mes chiffres de PBJ, vous les mettez en PNJ, les 15%, je les verrai à la 5-dinglin. Donc, à partir de là, on a retravaillé avec le casino et on a refait un tableau d'équivalence pour renvoyer le PBJ que vous avez voté de 1 million à 3, de 3 à 5 et au-dessus de 5, en un PNJ que vous retrouvez derrière. Donc c'est tout simplement un tableau d'équivalence, mais ça sera un avenant numéro 5, en accord tout simplement avec le casino Circus et effectivement Bercy.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Pas de questions ?
Ça a été clair.
Je pense que c'est mieux. Question ou pas de question ?
Il n'y a pas de question. D'accord. J'ai pas une question sur le rapport avec lequel je suis d'accord. J'ai une simple question que j'aurais posée concernant les investissements qui étaient prévus par le casino concernant le compte 471.
Alors,
ce que je voulais savoir, c'est ces investissements prévus, compte tenu des déclarations qui ont été faites dans la presse, qui prévoient en fait un investissement qui, semble-t-il, est essentiellement consacré à augmenter le nombre de couverts, de possibilités de restauration. Est-ce que les investissements qui représentent 310 000 euros de mémoire, est-ce que ces investissements vont réellement être réalisés ou pas ? Est-ce qu'il y a un commencement, puisque j'ai vu qu'il y a un permis de construire qui avait été déposé ?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà eu une grosse partie d'investissement. Vous avez pu lire les articles dans la presse, et entre autres celui de la semaine dernière. Je suppose que c'est celui-là que vous faites référence, entre autres. Hein. Juste une petite chose quand même. Il faut savoir que le Casino Circus, ça va être la première année où ils vont faire autant de chiffre d'affaires sur les jeux de table. Je parle bien des jeux de table, oui. Ce qui est étonnant. Hein. Ça va être la plus importante depuis qu'ils existent. C'était juste une petite à parenthèse, donc il reste, si vous avez pu lire, c'est qu'avant l'hiver, les jeux de table étaient fermés. Aujourd'hui, ils vont les garder ouverts. Et derrière, ils ont investi déjà dans beaucoup de machines, entre autres, dans du matériel. Ils ont fait de la rénovation, une partie de rénovation d'aménagement intérieur. Ils ont effectivement déposé un permis de construire pour réaménager tout l'extérieur, pour redynamiser la partie restaurant, puisque je vous rappelle que c'était aussi l'un des points faibles du casino Barrière, c'est qu'ils avaient changé leur système de restauration et perdu beaucoup de clientèle à ce niveau-là, et donc il fallait redynamiser à ce niveau-là. Le permis de construire a fait plusieurs allers-retours, mais Michel peut en parler un peu plus, s'il est plus compétent que moi, entre le problème des ABF, vu l'endroit, et ainsi de suite. Mais tous les investissements, et je pense qu'ils en font plus que ce qu'ils avaient dit au départ, dans la globalité.
C'est-à-dire la globalité, vous voulez dire, en ce qui concerne le montant ?
Alors, je ne parle pas des 310 000 euros, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, on nous avait dit qu'ils s'engageaient à faire plusieurs millions, un million d'euros d'investissement, oui, machine tout compris. Aujourd'hui, ils seront, à mon avis, une fois tout terminé, fini, ils seront peut-être au double.
Enfin, dans l'avenant, il y avait deux parties. Il y avait une partie qui concernait l'investissement d'un million d'euros sur les machines, et il y avait une deuxième partie qui concernait les investissements liés au compte 471. Dans cette deuxième partie, liée au compte 471, les investissements réalisés étaient décrits très précisément. Donc ma question, c'est, est-ce qu'ils vont être réalisés tels qu'ils ont été décrits et tels que l'avenant le précise, ou est-ce qu'on est parti pour des investissements qui correspondront peut-être en montant à ce qui a été décidé, mais qui ne correspondront pas à ce qui a été décidé en termes de détails d'investissement ?
Alors, je vais vous faire une réponse mixte. Un, je pense qu'ils vont réaliser à la virgule les investissements qui étaient prévus, mais comme ils ont prévu d'en faire plus, il y en aura d'autres. Donc vous avez raison sur les deux points. Entre autres, réaménagement des parkings et ainsi de suite. Voilà. Ils sont relativement confiants du fait de la saison passée.
Monsieur Larouzic.
Quand est-ce que vous prévoyez les abords du casino sur le domaine public ? Dont le compte 471 devait servir en partie également à faire ses travaux.
Monsieur Larouzic, ne confondez pas tout. On avait envisagé d'utiliser cette somme pour faire ses travaux, mais sur plusieurs,
plusieurs
municipalités d'ailleurs, hein, parce que c'était pas. Effectivement, le projet ne s'est jamais fait pour des raisons qui tiennent à la complexité du dossier. On doit prendre en prise chez un propriétaire privé qui était Madame Danielou, puisque. Vous n'êtes pas sans savoir que Madame Danielou et sa famille ont procédé à la vente de la thalassothérapie de Carnac, qui est donc imminente. Par ailleurs, la route, qui est une route départementale. Et effectivement, quand on avait envisagé de mener à bien ce projet, qui est effectivement une nécessité, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est pas du tout.
Surtout les. Il y a des rambards dans.
Voilà,
en
et quand Ferra, on a demandé au conseil. Voilà, quand on a demandé au conseil départemental, puisque la route appartient au conseil départemental, de faire un certain nombre de vérifications sur la route, on a constaté en fait que la route était dans un très 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 mauvais état et que les travaux qui seraient nécessaires d'entreprendre sont beaucoup plus importants que prévu, puisque c'est tout le soubassement de la route dans lequel il y a des infiltrations d'eau de mer et que donc. C'est des travaux relativement importants, d'où des études qu'il faudrait mener et d'où un département qui, pour l'instant, n'est pas très enclin à mener ces travaux. Il a d'autres priorités, mais ça reste toujours quelque chose qu'il faudra faire dans les années qui viennent.
Si on veut développer l'activité du casino, c'est quand même un passage également, ouais. Étant donné que c'est une départementale, un passage très,
c'est pas
très
seulement
fréquenté.
D'ailleurs,
et
pas,
donc,
c'est,
ça demande à.
C'est pas seulement d'ailleurs.
Et même le parking au-dessus demanderait à être relooké.
Tout à fait. Et je dirais même que c'est pas seulement le casino, monsieur Larouzic, c'est aussi la liaison, éventuellement la liaison douce, puisqu'on a des pistes cyclables qui arrivent par l'ouest de la commune, qui conviendrait par cet endroit-là de relier à l'ensemble du dispositif. Donc, c'est un peu ce qui est effectivement prévu. Voilà. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous avez suffisamment d'expérience en gestion municipale pour savoir que malheureusement, on ne peut pas faire tout.
Enfin, on pouvait déjà quand même peut-être déplacer un tout petit peu parce que le trottoir devant le casino est assez large. On pouvait déplacer un peu la chaussée et éviter que les voitures passent trop, trop au bord du péret de la route.
Bon, je vous propose de passer au vote sur ce nouvel avenant numéro 5 de délégation de services publics liés au casino. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lejean, toujours des questions financières et la décision modificative numéro 1. Je vous félicite, c'est la première sur le budget principal.
Peut-être pas la dernière. Donc, pour la décision modificative numéro 1 du BP 2017, donc vous avez le petit tableau. Donc, il est dans le chapitre des dépenses de fonctionnement pour 136 438 € en dépenses et en recettes, et en dépenses d'investissement pour 81 792,50 € en dépenses et en recettes. Vous avez les différents chapitres. Je reste à votre disposition pour les différentes questions que vous souhaitez, moins que ça ait été vu avec la commission finance.
Oui.
Tu n'arrives pas.
Les 61 500 € de frais d'acte et de contentieux, ça représente quoi ?
C'est donc le prud'homme de Fiquet et consort suite à un problème de jeunesse.
Oui.
Voilà.
Alors, il y a quelques dates.
Donc on a été condamné. Hein. Donc il faut savoir dessus, il y a Carnac, la Trinité, Ploarnel et une partie pour Acta. Sur les 61 000 €, il y aura 56 000 € qui sera refacturé entre Acta, Trinité-sur-Mer et Ploarnel.
D'accord. Vous êtes uniquement dans les dépenses de fonctionnement, enfin dans le fonctionnement, là.
Ah, vous allez-y, comme vous voulez. Je vais essayer de vous suivre.
L'investissement.
Oui.
Les 94 560 €, bâtiments et installations, dans le compte 204.
Alors, dans le compte 204, oui, les 94 000, voirie communale et route, donc
c'est
dedans...
Ça.
En détail, c'est entre autres des enfouissements de réseaux télécom à Kermario et au Corrigan pour 121 080 €. Comme il y en a un petit peu moins sur d'autres postes, ça fait un delta de 94. Mais il y a pour 121 000 € d'enfouissement réseau télécom, Kermario et Corrigan.
Kermario, l'avenue de Kermario, donc au cours de l'hiver, je parle sous contrôle de. Et l'année prochaine, on refait le tapis roulant et on réaménage la rue. Pas d'autres questions ? Ok, je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette décision modificative numéro 1 ? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe à la décision modificative numéro 1, cette fois-ci pour le budget du musée, toujours Monsieur Lejean.
Oui, alors donc là, il n'y a aucune dépense nouvelle ni de recette. Hein. C'est juste uniquement un transfert de 17 750 € au chapitre 21, pour aller au chapitre 23, sans modification des totaux généraux des dépenses et des recettes.
Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Passe au vote. Des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 10, le leg de Madame Carzéro. On en a l'occasion eu d'en parler pas mal de fois lors de ce conseil. Dans de différents conseils municipaux. Et donc ce rapport destiné à autoriser le maire à procéder aux écritures de comptabilisation et transfert d'actifs relatifs à ce legs, hein, au but du budget communal au budget annexe du foyer logement du CCAS. Je vous rappelle le montant, aujourd'hui des liquidités de 514 186,82 €. Également de procéder conformément à la volonté du conseil d'administration du CCAS qui s'est prononcé à la mise en vente de la maison Carzéro, étant précisé évidemment que la cession se définitive fera l'objet d'une délibération ultérieure en conseil municipal, et également de donner pouvoir aux maires et aux adjoints délégués pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Pas de questions. Je vous propose, après avoir remercié une nouvelle fois Madame Carzéro, de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. On passe, Monsieur Marc Albert, au rapport numéro 11, travaux de défense à la mer. Demande de subvention, c'est bien ça ?
Oui.
Bon.
C'est une demande de subvention de 20 833 euros. On avait parlé en commission de travaux que c'était une demande de subvention pour les travaux du boulevard de la plage. Et je me suis trompé, c'était les travaux de défense contre la mer. De toute façon, ça fait partie du même, à peu près du même dossier, puisque c'est toujours le boulevard de la plage. Donc voilà. Voilà, quand on avait fait la journée de désherbage au jardin de Césarine, on nous a vu proposer plusieurs matériels pour pouvoir justement désherber différemment et arriver à faire les bords, les pieds de mur et éventuellement des endroits un peu compliqués. Donc on avait flashé, on va dire ça comme ça, sur deux appareils, un désherbeur chaleur pulsée, un désherbeur à brosse pour faire les...
Vu la description, je comprends qu'on puisse trouver un
mot. Voilà. Ouais, je répète qu'une fois. Donc, on a demandé des aides et donc on a eu 45% du montant de TTC.
Et pour ceux qui ont deux mains gauches, tu peux nous expliquer comment.
Alors, un genre de moteur comme une tondeuse avec une brosse qui tourne devant et qui permet de faire les pieds de mur et de faire les caniveaux. Et l'autre, c'est avec une bouteille de gaz, donc ça chauffe et on arrive à brûler les herbes qui sont sur les endroits un peu compliqués. Et ça évite de...
Ça émet un peu du CO2, quand même.
Un tout petit peu, mais il n'y a pas 50 000 solutions. Donc, les deux, de toute façon, une tondeuse fait du CO2. Mais bon, il faut bien qu'on arrive. Ça va beaucoup plus vite qu'à la main et ça nous permettra d'en faire un petit peu plus.
Alors, est-ce qu'il y a des jardiniers qui ont des questions sur ces matériels ? Il n'y en a pas ? Bon. Je vous propose de ne pas te voir. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Le rapport suivant, c'est une autorisation pour solliciter une autorisation d'urbanisme pour les travaux sur la vitrine du CCAS, puisque la vitrine du CCAS a vieilli et mérite d'être rénovée, puisque
Pardon, excusez-moi, pour le compte rendu, ça va être compliqué. Si je n'allume pas mon... Et donc, ce rapport très très simple, hein, puisque ça a déjà été évoqué en conseil d'administration du CCAS, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à déposer une déclaration préalable de travaux pour la modification de la vitrine des locaux du CCAS, 646 rue Saint-Cornélie, et de signer l'ensemble des pièces relatives à ce dossier.
Il s'agit bien du bâtiment Eurève. À quand les travaux de réfection du bâtiment entièrement ? Parce que la corniche s'effrite, ouais. Il y a des risques de chute de béton. Ouais.
Pour être parfaitement transparent, M. Lerouzic, nous nous posons la question de savoir si, compte tenu de la structure, mais M. Servet en parlerait mieux que moi, on se pose la question de savoir si on ne céderait pas plutôt ce bâtiment plutôt que de le rénover, parce que la rénovation, compte tenu de la structure, serait extrêmement coûteuse. L'emprise au sol est peu adaptée pour en faire une maison des associations ou des logements. Aucune décision n'est prise, hein, mais compte tenu en fait, des quelques évaluations qu'on a faites, ce serait peut-être pas forcément très intéressant, compte tenu de la structure de l'immeuble, en fait, d'y faire des travaux qui seraient très coûteux pour un résultat qui ne serait pas forcément très adapté aux besoins de la commune.
Ah, il devient dangereux.
Ouais.
Il n'est pas adapté, en tous les cas.
Je relève juste que lorsque j'étais adjointe donc aux associations, un projet avait été donc effectué sur le bâtiment Eurève, et les associations d'ailleurs, c'est elles-mêmes qui avaient choisi le lieu, qui était assez stratégique parce qu'il était en entrée de bourg. Ça permettait quand même on avait le bâtiment, le terrain derrière, ça jouxtait le terrain des sports, donc c'était quand même en termes de stationnement, tout était parfait. Et il y avait la place pour faire toutes les salles, tout était prévu. Le projet était très bien avancé. Donc, quand vous dites que c'est pas possible de faire une maison des associations là, c'est pas tout à fait vrai.
Monsieur Servet.
Sauf erreur de ma part et de mémoire, c'était un projet à 1,6 million. Ou ma mémoire me trompe?
Il n'avait pas été budgété complètement, c'est-à-dire qu'on devait, Madame Euseb est sans doute là pour pouvoir donner les chiffres précis, puisque, précis, ce n'était pas tout à fait le mot, évidemment, mais on en était à cette étape-là, et ça avait été autour de 1 million, ce n'était pas 1,6 million.
Continuons.
quoi qu'il en soit, il y a peut-être aussi des solutions ailleurs pour une maison des associations et avec les mêmes qualités. Donc c'est aussi pour ça qu'on se pose la question. Parce que c'est vrai que compte tenu de la structure de l'immeuble, ça ferait un projet qui serait un peu cher. Mais je ne conteste pas les qualités.
Disons qu'à l'époque, il y avait deux endroits stratégiques que personnellement je voyais. C'était en effet ce bâtiment Eurève et c'était la cantine scolaire. Sauf que on avait abandonné l'idée de la cantine scolaire. On aurait préféré en fait la remettre en état, faire les travaux nécessaires pour que les deux écoles, c'était la volonté de M. Bonnet et tout le monde était content que les enfants du public et du privé puissent être réunis dans un endroit. Et c'est pour ça qu'on avait abandonné l'idée, en fait, de faire la maison des associations en cet endroit.
Merci de l'information. Pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Donc, pour cette autorisation de solliciter une autorisation d'urbanisme pour les travaux sur la vitrine du CCS, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Encore une demande de subvention pour cette fois-ci... une compétence que nous transfère généreusement l'État avec très peu de compensation fiscale en face, à savoir les titres d'identité. Monsieur Lejean.
C'est une demande de subvention pour s'équiper d'un matériel pour la destruction effectivement des titres d'identité. Et donc on est subventionné à la hauteur de 1830 euros.
Il y a des questions sur cette magnifique machine. On achète vraiment des machines extraordinaires lors de ce conseil, dans les désherbeurs et les destructeurs de passeports. Pas de questions, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 15. Monsieur Marc Albert, acquisition de deux parcelles appartenant à Madame Fréville au Ménec.
Oui, c'est l'acquisition de deux parcelles à Madame de Fréville au Ménec. En effet, c'est des très grands terrains. Vous avez vu, 416 mètres carrés et 650 mètres carrés. Il y en a un qui touche un terrain communal qui est la parcelle 174. J'ai passé l'afficher. Donc, ça nous permet d'agrandir un petit peu et ça permettra justement aux propriétaires terriens qui travaillent leur terrain justement derrière de pouvoir passer avec les travaux qui ont été faits au parking du Ménec. Ils avaient une entrée dans un chemin qui était un chemin un peu privé. Et du coup, on pourra leur faire un accès par chez nous. Il nous manquait juste cette parcelle-là à acheter. Donc, on achète cette parcelle-là à 3 euros. Et puis, la dame m'a demandé gentiment si on pouvait lui prendre la parcelle qu'elle avait. La parcelle 900 à 1,50 euros. On lui a prise. Et puis, voilà. Ça fait 416 mètres carrés. Bon, ça ne va pas chercher loin. La dame a 85 ans, ça lui faisait plaisir que la commune de Carnac lui achète ces deux parcelles qui restent dans la commune.
Ouais. C'est quand même près des alignements oui. Du site mégalithique, donc ça a quand même un intérêt pour la commune, puisque
non,
dans le cadre du
dire,
plan de gestion de l'UNESCO, c'est des parcelles qui nous intéressent.
Non, mais je veux dire, c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas des hectares.
Quoi. Non, mais c'est sûr.
C'était un peu, voilà.
C'est effectivement pas des hectares. Est-ce qu'il y a des questions sur ces acquisitions de terrain ? Pas de questions ?
J'ai peut-être pas tout signé.
Pas de vote contre ? Pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, c'est pas encore terminé pour vous.
Oui, je pensais.
C'est toujours un déchirement, les créances irrécouvrables.
Tout à fait. Donc, le trésorier de Carnac a présenté l'état des créances irrécouvrables suivant. Donc, juste une petite chose. Hein. Il y a la créance sur droit de place du marché, la T755, qui date de 2012 à la hauteur de 159 euros qu'on a enlevé. Puisque c'est un commerçant non sédentaire qui vient, ne paye pas, ne vient plus pendant une année et revient l'année d'après. Donc là, on l'a un petit peu coincé sur le marché. Et donc il s'est retrouvé un petit peu coincé et est obligé d'honorer sa créance. Voilà.
Parfait. Des questions sur ces créances irrécouvrables ? Pas de questions. Passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. On termine par le marathon de M. Oudois, les rapports 17 jusqu'à la fin de ce conseil municipal, et le premier sur la convention de partenariat entre les centres des monuments nationaux et le musée de la préhistoire.
Alors, pas de nouveau là, sur les différents bordereaux qu'on va étudier. Là, c'est juste le prolongement pour une année de la convention qui a été signée l'année dernière entre le musée et le centre des monuments nationaux à destination des scolaires pour offrir une journée de visite mixte en visitant les deux sites. Donc c'est les mêmes, dans les mêmes conditions que la convention précédente.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention ?
Oui, je crois que j'avais posé sans doute la même question l'an dernier, mais
j'espère qu'on donnera la même réponse.
Mais qu'est-ce qui justifie le fait que le musée touche moins que le CNM ?
En fait, chaque prestataire fixe ses tarifs. Et c'est lié au coût, après, en charge de personnel, qui sont différentes en fonction des structures.
OK. Merci.
Et effectivement, la question avait été posée l'année dernière.
Et la réponse était la même ?
Oui, j'ose espérer. On retrouvera dans les archives.
Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudois, l'aide aux familles carnacoises pour les séjours pour l'année scolaire 2017-2018.
Donc, il s'agit d'attribuer une aide aux familles carnacoises pour l'année scolaire 2017-2018 pour leurs enfants dans le cadre d'un séjour scolaire avec une nuitée minimum organisée soit par un établissement scolaire carnacois, soit par une association carnacoise. Avec des tarifs que vous avez sous les yeux et qui sont définis en fonction du quotient familial.
Pas de questions ? On passe au vote. Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité. Je vous remercie. On continue avec le rapport 19, participation aux activités pédagogiques scolaires à vocation citoyenne des collèges, toujours l'année scolaire 2017-2018.
Donc là, l'objectif, c'est de former les citoyens de demain en allouant aux deux collèges carnacois une aide financière à hauteur de 2000 euros pour des activités à vocation citoyenne, étant entendu que le caractère citoyen des activités sera apprécié en commission enfant jeunesse.
Pas de questions. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Oudois, subvention pour les séances d'activité nautique des collèges du premier trimestre de l'année 2017-2018.
Donc c'est une subvention qui a vocation à prendre en charge les activités nautiques pratiquées dans les deux collèges carnacois à hauteur de 13 euros par séance à la demi-journée et par élève. Donc même condition que pour les écoles carnacoises.
Pas de questions ? On passe au vote. Pas de vote contre. Pas d'abstention. Unanimité. Je vous remercie. Encore une subvention, cette fois-ci, pour la prise en charge des transports des élèves pour les activités nautiques.
Alors, pour favoriser l'enseignement de la natation, l'intercommunalité ACTA offre à la piscine Alréo 12 créneaux horaires maximum pour les écoles primaires carnacoises. Et donc, il est proposé de prendre en charge le transport des élèves pour qu'ils puissent se rendre à ces activités aquatiques.
Pas de questions ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité ? Je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses. Le conseil municipal est donc maintenant terminé. Juste une petite précision. Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu, Madame Delphine Michard, à la fin du mois d'octobre. Et il sera probablement consacré uniquement au projet Boulevard de la Plage parce que nous avons besoin d'avancer sur ce projet. Donc ça risque d'être un conseil municipal à la fois court mais copieux parce que le conseil municipal sera amené à se prononcer sur le lancement des études du projet du boulevard de la plage. Donc on se retrouve à une date probablement fin octobre. Bon week-end à tous.